RCF.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle émission Le Sport au cœur de la foi. Avec comme invité, j'ai l'honneur de recevoir le footballeur professionnel ayant évolué en Ligue 1 à Dijon, Jérémy Bella. Bonjour Jérémy.
Bonjour Joël.
Alors Jérémy, vous avez débuté votre carrière professionnelle en Ligue 2 à 19 ans. Avant, vous avez été formé au RC Lens, avec qui vous avez fait vos débuts. Vous avez évolué aussi à l'INEF Clairefontaine avant d'enchaîner 4 saisons à Dijon en Ligue 2, puis en Ligue 1 la saison dernière. Et vous avez signé cet été en Espagne, et là vous êtes entre Valence et Madrid dans votre nouveau club d'Albacete. Alors Jérémy, tout d'abord, comment se passe votre intégration en Espagne?
L'intégration se passe super bien. Franchement, agréablement surpris de l'accueil que j'ai pu recevoir et que moi et tous les nouveaux. Franchement, ça se passe vraiment très bien avec des personnes très 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 simples et beaucoup de personnes amoureuses du foot. On sent de la passion quand même, on sent beaucoup de passion dans cette ville. La langue, c'est une langue déjà que je pratiquais avant de venir. J'allais souvent en vacances dans des pays, soit en Espagne, soit dans des pays où ça parlait espagnol, comme la République dominicaine, par exemple. Donc c'est une langue que j'apprécie beaucoup, donc ça me donne encore plus envie d'apprendre et d'apprendre encore plus vite. Donc je suis venu déjà avec une certaine base, qui de jour en jour s'améliore. Alors aujourd'hui, je suis vraiment, je me fais comprendre assez facilement, on va dire ça.
Alors Jérémy Bella, on va revenir sur les débuts de votre carrière et un petit peu comprendre comment vous avez vécu votre passage à l'INF Clairefontaine, qui est l'institut du football, là où sont sortis les plus grands comme Thierry Henry, William Gallas et d'autres encore comme Kylian Mbappé, ce jeune prodige. Est-ce que vous pouvez nous raconter quels souvenirs vous gardez de cette époque?
Franchement, honnêtement, c'est les meilleurs souvenirs pour un jeune de la région parisienne, en plus, même un jeune tout court. L'INF Clairefontaine, c'est un objectif que tout le monde aimerait atteindre. Et moi, à la base, déjà, j'étais pas emballé pour y aller, honnêtement. Ça, c'est la petite anecdote. On m'a forcé à passer des tests pour l'INF Clairefontaine parce que je ne connaissais pas du tout.
Qui vous a forcé alors?
C'est comme un grand frère pour moi. C'est Mohamed Boujarbitine, il s'appelle. Et il est actuellement éducateur sur Évry, toujours, où j'habite. Et c'est lui qui m'a montré il m'a forcé à regarder les cassettes sur l'INF Clairefontaine de la génération Ben Arfa, Diaby, etc. Et comme il voyait que j'étais toujours pas emballé, malgré les cassettes, malgré tout ce qu'il pouvait avoir, il m'a juste dit d'aller là-bas, de jouer. Si ça me plaisait pas, que je pouvais arrêter à tout moment, mais juste d'aller là-bas pour mesurer, pour me comparer à certains joueurs de ma génération. Et au fil des tours, je voyais que j'étais pris, sélectionné, jusqu'à arriver au stage. Et j'ai vu que j'ai été sélectionné pour les neuf. Bon, je connaissais rien du tout. Pour moi, c'était tout nouveau. Tout le monde parlait de ça dans mon collège, mais moi, j'étais le seul qui, limite, ne connaissait pas. Et à cette époque-là, j'avais déjà signé à Lens et j'étais plus emballé pour partir à Lens. Donc, je suis arrivé à Clairefontaine. Et là, waouh, j'étais tout de suite frappé par déjà les installations, parce que pendant les tests, je les voyais, mais on les voyait vaguement. Et là, quand on était à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Les personnes qui sont autour pour nous encadrer sont vraiment là, très psychologue, vraiment là pour nous accompagner au mieux. Et franchement, c'était le top, c'est les meilleurs souvenirs. C'est là où j'ai rencontré la plupart des amis proches que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, viennent de l'INF aussi, une grande partie. Donc franchement, ça a été des souvenirs incroyables, incroyables. On a l'impression d'être emprisonné parce que voilà, il n'y a rien autour. On rendait les téléphones le soir et tout, mais justement, c'est ça qui rendait la chose encore plus belle, parce que tout était simple et il y avait vraiment l'humain. On était tous là à rechercher de la complicité avec tout le monde. On était solidaires, c'était vraiment super. C'est l'un de mes plus hauts souvenirs.
Et quelles amitiés durables vous gardez de là-bas, avec qui vous êtes toujours en contact et...
Avec qui je suis toujours en contact, donc il y a Alphonse Areola, que beaucoup doivent connaître, le gardien du PSG. C'est un super ami et franchement une personne pour qui j'ai énormément d'admiration, lui et sa famille, pour tout ce qu'ils ont pu traverser. Voilà, après je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà, rien que pour son histoire déjà, c'est une personne que j'ai dans mon cœur depuis très longtemps. Après, il y a Abdel Rafi Gérard qui actuellement joue à Lens. Lui, c'est mon frère. Lui, ma mère l'appelle mon fils. Donc, voilà, c'est pour vous dire à quel point on est proche. Il y a Jason Blee aussi, avec qui j'ai passé les 3 années à l'INF Clairefontaine. On était ensemble dans la chambre. Après, j'ai des joueurs comme Terence Makengo ou David Alcibiade qui sont des joueurs qui étaient plus grands que moi, mais avec qui... J'ai noué des liens vraiment forts. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment les personnes qui sont importantes pour moi, pour moi-même personnellement à l'heure d'aujourd'hui, et qui l'étaient déjà à cette époque-là, parce que dans beaucoup de moments, ils ont pu m'apporter un soutien dont j'avais réellement besoin.
D'ailleurs, Terence Makengo et David Alcibiade, j'ai eu le privilège de les recevoir dans cette émission Le Sport au cœur de la foi. Est-ce que c'est la foi justement qui unit pleinement votre amitié? Comment vous êtes rencontrés, enfin retrouvés? Qu'est-ce qui vous unit aujourd'hui?
Quand on s'est rencontrés à l'INF Clairefontaine, c'était pas forcément la foi qui a fait qu'on a tout de suite connecté. C'était plutôt l'amitié qu'on a quand on est jeune, la personnalité, tout, voilà, toutes ces choses-là ont fait qu'on s'entendait super bien. À l'époque, avoir 1 ou 2 ans de différence, c'était énorme. Pour moi, c'était mes grands frères. Alors d'aujourd'hui, c'est mes frères tout court. On se considère pas, je les considère pas forcément comme des anciens pour moi. Mais à l'époque, si, c'était les grands frères de l'INF Clairefontaine, et ils m'ont vraiment pris sous leur aile. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est la foi qui a fait qu'on a pu se retrouver. Vraiment, ça a été assez bizarre, on va dire ça, puisque je ne savais pas que on pouvait connecter des années plus tard avec des personnes pour qui j'avais déjà beaucoup d'estime à l'époque, grâce à la foi. Et voilà, c'est là que ça rend la chose encore plus belle, ça rend la relation encore plus forte. Parce que là, le lien qui nous unissait, il est plus fort grâce à la foi encore. Et voilà, alors d'aujourd'hui, je m'entends encore super bien avec eux. On s'encourage. Et franchement, Dieu merci, j'ai des personnes comme ça autour de moi qui, dans les bons comme dans les mauvais moments, sont là. Et restent les mêmes, donc ouais.
Vous êtes toujours dans le sport au cœur de la foi avec le footballeur professionnel qui évolue en 2e division espagnole après avoir évolué en Ligue 1 à Dijon, Jérémy Bella.
Moi, je l'ai découvert depuis que je suis petit. J'allais à l'église, à l'école du dimanche. Tous les week-ends, j'étais avec mon père. Parce qu'à l'époque, d'aujourd'hui, toujours, ils étaient divorcés. Et mon père passait sa formation pour être pasteur. Donc, ils avaient divorcé avec ma mère depuis que j'étais tout, tout petit. Et donc, tous les week-ends, j'étais avec lui. On allait à l'église. Moi, j'étais, on va dire, j'étais pas le jeune le plus attentif de tous. J'étais souvent le petit jeune qui était, voilà, qui était viré de l'école du dimanche parce que, voilà, j'étais pas méchant, mais voilà, j'aimais bien parler, j'aimais bien faire rire tout le monde, faire le guignol, faire l'intéressant. Donc, voilà, mon père était en train de prêcher et il voyait son fils à chaque fois revenir avec une animatrice, une grande, qui me mettait devant et qui disait, il me disait de plus bouger. Il savait qu'à ce moment-là, que voilà, j'avais été viré et tout. Mais mon père m'a toujours encouragé à prier, à lire la Bible et tout, mais ne m'a jamais forcé. Et je pense que c'est ça qui a fait que il était encore plus attiré, parce que je suis quelqu'un qui me sent, qui, en tout cas avant, qui se braquait tout de suite dès qu'on l'obligeait à faire quelque chose. Je me braquais, je faisais totalement l'inverse. Voilà. Et un jour, ben justement, quand j'allais à l'INF, j'allais rentrer à l'INF Clairefontaine, c'était 2 jours avant. J'étais allé à une soirée avec ma grande sœur à l'époque. J'avais 12 ans, c'était une soirée chez sa meilleure amie qui est comme ma grande sœur. Donc elle avait invité pour des amis. Et dans ses amis, il y avait ben, un garçon. Voilà, c'était la première fois qu'on se rencontrait. Ma sœur lui explique que je rentre à l'INF Clairefontaine, que c'est l'Institut du football, etc. Voilà, et là, je vois qu'il commence à me parler. Il est venu, il a appris à me connaître, il a commencé à me poser des questions, où j'ai commencé à jouer, ceci, cela, ce que j'aimais dans la vie. Voilà, des questions comme ça. Et avant de partir, le jeune en question me dit de l'attendre avant de partir. Il doit me donner quelque chose. Et là, il vient me voir, il me tend une Bible. Bah, franchement, j'ai jamais eu de Bible, à part une petite Bible de poche, qui était dans une armoire de ma chambre, mais sans plus. Je ne l'avais jamais ouverte. Et là, il me tend la Bible, il me dit, commence par lire le Nouveau Testament. Il m'a juste dit ça et lui là tous les soirs, juste un peu. Il m'a dit, c'est le meilleur cadeau que je peux te donner. Et franchement, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi moi qui n'aimais pas lire, je détestais ça à l'époque, détestais ça. J'ai senti que, je sais pas, je me suis senti pas obligé, non, mais j'ai senti le désir de la lire. Et le premier jour où je suis arrivé à l'INF Clairefontaine, où on rencontre voilà, son collègue de chambre, ses autres collègues, bah, tout le monde était réuni dans la salle de jeu. Et moi, je me suis enfermé dans la chambre et j'ai commencé à la lire la Bible. Et d'année en année, c'est devenu une habitude. Une habitude, une habitude. Et c'est grâce à la Bible et ces temps que j'ai consacrés pour la prière, pour la lecture de la Bible, pour méditer dessus, qui a fait que ça a renforcé ma foi. Et j'écoutais de plus en plus de prédications. Toutes ces choses-là ont renforcé ma foi. Et voilà, donc petit à petit, j'ai pu rencontrer aussi d'autres frères qui m'ont aidé. Et c'est ça qui a fait que je me suis vraiment plongé dans la foi. Et voilà, alors d'aujourd'hui, je continue. Gloire à Dieu.
Merci beaucoup Jérémy Bella d'avoir répondu à mes questions. Juste, première émission était consacrée à mieux vous connaître, mieux connaître votre cheminement, votre parcours aussi, vos débuts dans le football. La semaine prochaine, on se retrouvera pour parler notamment de vos années à Dijon et de votre arrivée en Espagne. C'était le sport au cœur de la foi. Je vous dis à la semaine prochaine sur les ondes de RCF Alpha.
RCF.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle émission Le Sport au cœur de la foi. Avec comme invité, j'ai l'honneur de recevoir le footballeur professionnel ayant évolué en Ligue 1 à Dijon, Jérémy Bella. Bonjour Jérémy.
Bonjour Joël.
Alors, Jérémy, vous avez débuté votre carrière professionnelle en Ligue 2 à 19 ans. Avant, vous avez été formé au RC Lens, avec qui vous avez fait vos débuts. Vous avez évolué aussi à l'INEF Clairefontaine avant d'enchaîner 4 saisons à Dijon en Ligue 2, puis en Ligue 1 la saison dernière. Est-ce que vous étiez prêt? Est-ce que 19 ans, c'est pas trop tôt? Comment vous avez vécu cette période?
Après, oui, je me sentais prêt en tout cas, même avant. Je me suis vraiment conditionné, préparé, voilà, à passer cette étape. Et quand l'opportunité m'a été donnée, j'ai fait en sorte de la saisir et de ne pas la lâcher. Après, c'est vrai que pour certaines personnes, si l'entourage n'est pas stable, c'est vrai qu'on peut vite vriller, on peut vite partir à droite, à gauche, avoir la tête qui grossit, qui gonfle. Et moi, voilà, Dieu merci, autour de moi, j'ai des personnes qui savent me remettre à ma place. Donc, clairement, c'est ça. Qui me connaissent très bien, qui savent me parler, me dire les choses directement, il n'y a pas de faux semblant. Que ce soit ma mère, ma sœur, celui que je considère comme un grand frère, Mohamed Boujardine, c'est des personnes qui sont là vraiment pour mon bien. Je sais qu'il n'y a jamais eu de faux semblants. Ils m'ont toujours dit les choses. Donc oui, faut vraiment faire attention. Et l'entourage est vraiment, mais vraiment quelque chose de très important pour un jeune qui débute en professionnel. Voilà, on commence à avoir de l'argent. Il y a les plus expérimentés, les plus anciens qui viennent avec de grosses voitures, qui parlent souvent d'argent, de primes et tout. Voilà, c'est tout ça qui peut faire rêver. Ça peut monter à la tête d'un jeune très rapidement. Mais voilà, moi je savais que il y avait des choses qui m'apportaient plus que tout ça. Bien sûr, après j'étais jeune et voilà, il y a certaines choses où j'ai profité entre guillemets à l'époque, on va appeler ça comme ça, mais ça n'a jamais été mon moteur, quoi.
Vous êtes toujours dans le sport au cœur de la foi avec le footballeur professionnel qui évolue en deuxième division espagnole après avoir évolué en Ligue 1 à Dijon, Jérémy Bella. Dans quel travers du monde du football vous diriez que vous êtes tombé par manque de maturité?
Par quel travers? Déjà, les soirées, les filles, c'est vraiment... Parce que ça devient... En fait, t'es jeune, tu joues. Si en plus de ça, tu fais des bons matchs, t'as l'impression que tout devient facile. C'est même plus toi qui cours draguer les filles, c'est des filles qui viennent à toi. On t'invite à des soirées tout le temps. T'as les grands, les plus anciens qui vont commencer à te parler de telle soirée là-bas, telle soirée chez lui, une soirée privée. Voilà, toi tu te dis waouh, là je suis rentré dans un monde fou. Voilà, c'est limite, tu te prends un peu pour un petit prince, un petit prince. Donc faut vraiment faire attention à ça. Tous ces travers-là dans lesquels j'ai pu tomber. Ouais. Je suis tombé dedans, mais j'ai vite été très rattrapé aussi.
Est-ce que justement, vous avez vécu une période où vous avez été pas mal blessé dans vos débuts professionnels, notamment la saison 2013-2014, après un an en Ligue 2? Est-ce que vous expliquez que votre hygiène de vie, les travers, ont eu un impact sur votre état de forme, sur votre corps qui est votre instrument de travail?
Je pense que c'était plus l'hygiène de vie, là c'était plus l'hygiène de vie. À cette époque-là, je vivais avec ma copine et c'était plus l'hygiène de vie, ouais. À ce niveau-là, parce que on était jeunes, on vivait ensemble, en fait, j'avais mon appartement, elle était souvent là. Voilà, des jeunes, appartements, en couple, on invitait des amis, tout ça. Des fois, j'aimais pas forcément tout le temps sortir tous les week-ends, mais je pouvais sortir après des défaites. Je me disais allez une fois de temps en temps, allez juste pour m'aérer l'esprit. Alors que alors d'aujourd'hui pour moi c'est limite inconcevable.
Et à ce moment-là du coup la Bible restait fermée sur la table de chevet. Comment par rapport à votre foi qui avait commencé à grandir quand vous étiez à l'INEF Clairefontaine qui vous donnait un cadre, comment vous arriviez à concilier les deux à ce moment-là? Est-ce que vous
retrouviez? Je continuais à lire la Bible, à prier. Je, continue à avoir ces moments de prière, mais j'avais laissé beaucoup trop de compromis dans ma vie, en fait. Je me disais, bon, je prie, mais après, voilà, je vais faire ça, j'allais voir une fille, je rentrais, je priais. En fait, c'était devenu une habitude, c'était plus devenu un besoin, c'était plus devenu quelque chose que où je ressentais vraiment l'envie. Je me sentais obligé, entre guillemets. Je le faisais, je me disais, par motif de bonne conscience, pour avoir bonne conscience, pour me donner une bonne conscience devant Dieu, entre guillemets, ouais, c'est ça. C'est vraiment plus l'image que la profondeur.
Et quel a été le déclic pour suivre Jésus, pour aujourd'hui vous revendiquer notamment sur les réseaux sociaux, sur Twitter, vous avez fait aussi un témoignage vidéo où vous dites vouloir suivre Jésus. Quel a été vraiment ce déclic pour vous abandonner? Vous avez même fait état sur les réseaux, vous n'êtes pas caché qu'on reviendra dessus, mais qu'en juin 2016, vous avez décidé de passer par ce qu'on appelle le baptême adulte, par immersion, dans votre église locale à Dijon. Qu'est-ce qui explique tout ce cheminement? Quel a été ce déclic?
Quand j'ai enchaîné plusieurs blessures, surtout de mon passage de Lens à Dijon, j'ai commencé à me blesser de cette période-là jusqu'au début de l'année, de la saison suivante. Et franchement, à ce moment-là, on se rend compte que voilà, toutes les personnes qui étaient là à nous aduler, voilà, qui étaient derrière nous, qui nous chantaient voilà, mille et une chansons, ouais, t'es le meilleur, t'es ceci, t'es cela, je les voyais plus. Je les voyais plus du tout. Et comme je suis de nature très fier, j'étais pas là à leur envoyer des messages en leur disant ouais et tout, je donne plus de nouvelles et tout. J'ai laissé faire. Et avant, j'ai été opéré justement d'une pubalgie. Quand j'étais en rééducation, c'est là où je me suis retrouvé. Là, j'étais, comme j'ai dit, c'était un homme, son Dieu et sa Bible. C'était ça. Voilà. C'est comme ça que l'image que j'ai eue de moi dans cette chambre de rééducation où je me mettais à pleurer, où quand ma mère m'appelait, j'entendais pleurer. Voilà, je me suis vraiment laissé aller. Je me suis abandonné à lui. Et quand je priais, je me mettais à pleurer, non pas pour ma situation, mais vraiment, je revenais pour la. Je me sentais vraiment honteux. J'avais honte de moi, de ce que j'ai pu faire, de l'avoir abandonné dès que le succès est arrivé. Toutes ces choses-là ont fait que vraiment j'ai pris la décision de m'abandonner au Seigneur, à Christ. Et franchement, ça a été une période où je me suis découvert. J'ai appris à me connaître. J'ai appris à connaître Christ encore plus que je ne le connaissais déjà.
Et alors, qu'est-ce que vous avez découvert sur la personne du Christ à ce moment-là? Ouais. Quelle a été cette rencontre personnelle? Comment vous l'avez vécue? Qu'est-ce qui vous a appris sur lui, sur vous-même?
On parlait souvent de l'amour de Christ, l'amour qu'il nous a manifesté à la croix. Voilà, c'est des messages que j'ai entendu. Mais le vivre, c'est autre chose. Et là, moi, je déteste pleurer, mais c'était plus fort que moi. Et là, je ressentais de l'amour. C'était vraiment un pardon sincère que je ressentais. Et c'est quand je finissais de prier, après, franchement, je pouvais faire une heure et demie normale, facile, sans compter les heures. Si je continuais, j'allais continuer dans la louange, l'adoration. Je priais. J'étais vraiment tout seul. C'était ma dernière solution, le dernier recours. Et vraiment, ça a été un appui comme j'ai jamais eu, parce que j'avais jamais été confronté à une situation comme ça où j'étais vraiment tout seul, je me sentais seul. Voilà. Je pouvais appeler ma mère, je pouvais appeler ma famille, ils ont toujours été là. Mais j'étais pas la seule fois où j'étais en paix, c'était quand j'étais en train de prier.
Et est-ce que vous diriez qu'en 2013-2014, là, sur cette saison-là, un nouveau Jérémy est né? Il s'est passé quelque chose que Jésus décrit, là, cette nouvelle naissance. Comment vous pourriez nous expliquer ça spirituellement? Qu'est-ce qui s'est passé?
Je pense que c'est vraiment ça. Je pense que c'est à ce moment-là où j'ai eu ce vrai déclic. Ce moment où tu es face à... Tu te vois en fait dans un miroir, tu es face à toi-même et tu te rends compte que là, excusez-moi du terme, mais c'est où vraiment tu sens que t'as merdé, t'as fait n'importe quoi. Et l'orgueil, tout ça, c'est là à ce moment-là où tu te dis, mais en fait, c'est bien, plus t'as eu beaucoup d'argent pour un jeune de ton âge, d'un coup, tout est arrivé d'un coup, waouh, mais c'était pas ça, c'est pas la vraie vie, c'était pas la vie que je voulais, et que le Seigneur surtout voulait pour moi. Donc c'est à ce moment-là où on va dire que j'ai eu la vraie rencontre, une rencontre vraiment plus forte, plus profonde avec le Seigneur. Et après, ben justement après cette période-là, j'avais trouvé mon église locale où je me suis fait baptiser quelques années, un an ou deux ans plus tard. C'est là où j'allais vraiment très régulièrement à l'église, très très régulièrement. Je me sentais bien à l'église, voilà.
Vous êtes toujours dans l'émission Le Sport au cœur de la foi avec comme invité le footballeur professionnel Jérémy Bella. Le vrai bonheur, vous l'avez trouvé dans cette chambre d'hôpital quand vous étiez seul. Qu'est-ce qui se serait passé si Dieu vous avait dit le foot, c'est fini?
Bonne question. Très bonne question, franchement, très bonne question. Bien sûr, je pense que je serais très, très, très mal. Je vais pas mentir, je vais pas vous dire, je serais vraiment effondré parce que j'ai passé une grande partie de ma vie où le foot a pris une place énorme dans ma vie. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai appris à recentrer mes priorités et mon bonheur, il est plus en priorité sur le foot. Avant, je perdais un match, impossible pour moi de parler avec quelqu'un, c'était mauvais perdant, tout ça. À l'heure d'aujourd'hui, je perds un match, je suis pas bien. Mais je suis triste de perdre. Mais ça ne peut plus me mettre dans un état déplorable parce que je sais que j'ai un autre combat, j'ai un autre match. J'ai un match plus important avec un entraîneur, entre guillemets, qui est le meilleur entraîneur de l'univers. C'est le Seigneur Jésus. C'est le lendemain d'une défaite, je vais à l'église, je me sens bien. Je suis bien, je suis en paix. Le fait de gagner, tout ça, c'est bien, c'est parce que voilà, je ne joue pas au foot non plus pour perdre, pour souffrir. Mon amour pour le foot n'est pas plus grand que l'amour que j'ai pour Christ. Mais là, c'est une situation que j'ai pas vécue et voilà. Mais en tout cas, si ça devait arriver, je serais quand même vraiment triste.
Et donc aujourd'hui, comment vous gérez vos périodes de blessures en tant que chrétien? Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant?
Qu'est-ce qui a changé, c'est que c'est plus les événements de la vie courante qui me motive, qui me stimule, qui me donne, qui joue sur mes émotions. C'est-à-dire que ça aille bien, que ça aille mal, je sais comment appréhender les choses. Et je me plonge dans la parole. Quand ça va, je me mets, voilà, je suis là dans la joie, dans la louange, etc. Je suis vraiment rempli de joie, j'essaie de partager ça même avec le plus de monde possible autour de moi. Quand justement j'étais dans des périodes un peu moins bien, à chaque fois que je priais, je demandais au Seigneur qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne? Qu'est-ce qu'il voulait me révéler? Et l'une des raisons pour lesquelles je suis à Albacete, ça a été une réponse à une prière.
Merci beaucoup Jérémy Bella d'avoir répondu à mes questions. Justement, on va garder le suspense pour la prochaine émission. L'émission était consacrée à mieux vous connaître, mieux connaître votre cheminement, votre parcours aussi, vos débuts dans le football. La semaine prochaine, on se retrouvera pour parler notamment de vos années à Dijon et de votre arrivée en Espagne. C'était le sport au cœur de la foi. Je vous dis à la semaine prochaine sur les ondes de RCF Alpha.
RCF.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle émission, Le Sport au cœur de la foi. Avec cette semaine, le footballeur professionnel Jérémy Bella. Bonjour Jérémy.
Bonjour à tous.
Alors Jérémy, on poursuit notre entretien. Vous nous avez expliqué la semaine dernière comment vous avez découvert la foi chrétienne, pourquoi vous avez décidé de suivre Jésus et de vous faire baptiser en juin de 2016. J'invite les auditeurs à retrouver cela sur le podcast de l'émission. Jérémy, vous avez passé 4 saisons à Dijon avant de partir là en Espagne pour un nouveau défi. Quels souvenirs vous gardez de ces 4 années à Dijon, globalement? Je parlais tout à l'heure, il y a eu ce baptême aussi, voilà, tout ça, qu'est-ce que vous gardez, la vie dans le club?
Qu'est-ce que je garde? Franchement, déjà tout. Parce que j'ai connu des super moments là-bas, sur et en dehors du terrain. J'ai rencontré des super personnes. C'est là-bas que je me suis fait baptiser. C'est là-bas que j'ai eu, voilà, une véritable église locale à long terme, entre guillemets, où j'ai pu durer longtemps là-bas. Là-bas, j'ai connu la montée en Ligue 1, j'ai connu le maintien en Ligue 1. Franchement, des super personnes que j'ai rencontrées là-bas, même si j'aurais, moi, préféré jouer plus, mais au-delà de ça, les personnes là-bas, des personnes en or, franchement, des super personnes avec qui je resterai en contact, ça c'est sûr.
Vous avez joué 72 matchs sous le maillot de Dijon, dont 12 en Ligue 1. Quels sont vos regrets aujourd'hui?
D'avoir eu beaucoup de blessures et de ne pas avoir pu jouer plus
Est-ce que vous
quand
avez
j'étais
compris
apte.
à certains moments ouais, de pourquoi vous n'avez pas joué plus? Comment vous avez géré ça? Et s'il n'y avait pas eu la foi, est-ce que le Jérémy d'avant du RC Lens, comment il aurait géré ça?
Je pense que quand j'étais plus jeune, je pense que j'aurais pu. Mon caractère aurait pu faire en sorte que j'aurais très très mal réagi dans le sens où. Même si j'appréciais vraiment les gens, même avec les personnes que j'apprécie énormément, que j'aime, voilà, je peux parfois être agressif dans mes paroles ou même pas aller pas non plus dans les gestes, mais dans mes paroles, j'aurais pu devenir très blessant ou quoi. Mais
Vous étiez un sanguin avant.
ouais, je le suis, mais là, je suis pas un mauvais sanguin. Voilà. Pour moi, il y a deux sortes de sanguins. Il y a le sanguin où voilà, c'est très très méchant, c'est toujours à chercher le conflit, la bagarre et tout. Et on va dire que j'ai du caractère. Mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je sais comment le montrer. Parfois, avoir du caractère, c'est pas forcément répondre et mal parler à une personne, non. C'est savoir encaisser. C'est ça aussi. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis plus comme ça. Franchement, la foi m'a aidé. Hein. La foi m'a vraiment aidé pour. À gérer ces périodes-là où pour moi, c'est à mes yeux, après ça ne regarde que moi, où je sentais que j'étais pas considéré à un certain moment à ma juste valeur. Et voilà. Donc ça m'a vraiment aidé à maintenir le cap.
Parce que justement, vous avez pu trouver votre valeur dans la Bible.
Quand je lisais par exemple des histoires comme celle de Joseph, de l'histoire de Daniel, qui, malgré qu'ils soient humbles, justes, malgré leur foi, là, ils pouvaient être traînés en justice, ils pouvaient être rejetés par leur propre famille. Des exemples comme ça, et je me disais en plus, à cette époque-là, ils étaient jeunes, ils n'étaient pas forcément âgés, ils étaient jeunes et vivent toutes ces choses-là. Je me disais, mais moi, c'est rien du tout en fait. C'est justement, c'est un témoignage. Je sais que ce que je vis peut aider certaines personnes qui vont vivre ça. Donc, à partir de ce moment-là, j'arrivais à relativiser et à trouver ma joie dans autre chose que le foot.
Vous êtes toujours dans le sport au cœur de la foi avec le footballeur professionnel qui évolue en deuxième division espagnole après avoir évolué en Ligue 1 à Dijon, Jérémy Bella. Vous avez dit que la prière avait une place importante dans votre vie, dans vos choix, dans une vidéo sur YouTube où vous partagez aussi votre parcours de foi. Vous avez dit avoir eu des propositions pour quitter Dijon avant au terme de votre contrat. On sait que Bastia était sur le coup. Qui vous proposait un meilleur salaire, des meilleures conditions. Et finalement, vous êtes resté à Dijon alors que vous n'avez pas joué beaucoup derrière. Qu'est-ce qui vous a donné la conviction de rester? Est-ce qu'en cours de saison, vous avez regretté de rester? Bon, vous avez vu ce que Bastia est devenu aussi aujourd'hui avec liquidation du club. Comment tout ça, vous l'avez vécu avec du recul et de dire qu'est-ce que Dieu a fait dans cette période? Qu'est-ce qu'il vous a dit, quoi?
Et alors d'aujourd'hui, je regrette. Mais alors pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. Parce que ça, Dieu a toujours un plan pour chacun de nous. Ça, c'est indéniable. Et là, avec le recul, je me rends compte que son plan, il était préparé. Il était vraiment... Je sais pourquoi j'ai pas voulu... J'ai pas eu la conviction d'aller à Bastia. Oui, la proposition était meilleure. J'ai eu même d'autres propositions, hein, d'autres clubs à l'étranger et tout. Et franchement, c'était des propositions où certaines personnes n'ont pas compris mon refus. C'est des réponses à des prières. Et tout ce que je fais, je le fais par conviction. Comme le dit dans la Bible, tout ce qu'on fait doit être fait par conviction, sinon c'est péché. Donc j'essaye en tout cas vraiment de ça, de le mettre en pratique. Quand je priais, je sentais qu'il fallait que je reste. Je savais pas pourquoi, mais je sentais qu'il fallait que je reste. Et la réponse était non. Par un témoignage, j'avais des réponses, mais de plusieurs manières différentes. Et vraiment après, j'ai pris la décision de rester. Puis, voilà, cette décision-là, je la regrette pas du tout. Parce que j'ai appris la patience, j'ai appris l'humilité surtout, plus d'humilité encore. Et je pense que la saison dernière, ça a été une saison pour me préparer à cette saison-là. C'est vraiment l'impression que j'ai et que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est vraiment, si j'avais pas eu la saison dernière, bah, j'aurais pas pu être prêt à venir ici à l'étranger, être tout seul, apprendre une autre langue. J'aurais pas pu être prêt.
Est-ce que vous aussi, vous avez appris qu'on peut être utile dans un groupe, même si on ne joue pas, par notre caractère, par ce qu'on apporte en termes de leadership? Est-ce que vous êtes découvert un autre rôle aussi?
Exactement, c'est ce que j'allais revenir dessus. J'ai vu aussi, j'étais pas le centre du monde, que le plus important, c'était un groupe. Voilà, même si c'est vrai que dans le football actuel, c'est beaucoup individuel. De toute façon, le foot, c'est aussi individuel. Mais il y a surtout le collectif, le groupe. Et même si je jouais pas, j'étais toujours là à encourager ceux qui jouaient. J'étais toujours là à me donner à fond, déjà pour moi. Et en plus de ça, c'est ce que je disais à ceux qui jouaient. Moi, je me donne à fond, c'est pour que vous voyez que derrière vous, il y a des joueurs qui ont faim. Même si je savais que j'allais pas jouer forcément beaucoup de matchs. Je prends l'exemple d'un Johan Rivière, 33 ans. Et le mec, il était toujours à fond. Il a dû faire combien de groupes? Peut-être une dizaine, mais il était toujours à fond. Même s'il n'était pas dans le groupe, il faisait des déplacements, il voulait faire des déplacements à l'autre bout de la France pour venir nous voir. Et voilà, c'était aussi ce genre d'exemple-là qui me faisait que ça m'a encore plus donné envie d'aider les autres à mon niveau, puisque voilà, si je pouvais pas les aider sur le terrain, je pouvais les aider en les encourageant, en moi me donnant à fond pour que eux aussi se surpassent pour être meilleurs sur le terrain. Et ça, c'est des choses qui n'ont pas de prix pour moi, c'est... D'un côté, je suis fier d'avoir pu aider l'équipe à ma façon. Et même si, voilà, c'est toujours mieux d'être sur le terrain, de jouer. Moi, c'est ce que j'aime, c'est d'être sur le terrain, c'est pas d'attendre et tout. Il faut savoir être humble et voilà, attendre son tour.
Vous êtes toujours dans le sport au cœur de la foi avec le footballeur professionnel qui évolue en deuxième division espagnole après avoir évolué en Ligue 1 à Dijon, Jérémy Bella. Jérémy, vous parliez en fin d'émission dernière que la prière, une fois de plus, avait eu une place particulière. Ce qui vous a convaincu de signer en Espagne, alors un petit peu à la surprise générale, de signer en D2, quand on sait que vous aviez des clubs de Ligue 1 la saison d'avant, que vous aviez aussi des touches en Angleterre, en Championships. Qu'est-ce qui explique ce choix de l'Espagne?
Qu'est-ce qui explique ce choix? Ben, comme j'ai dit, Et encore une fois, c'est dans la prière que j'ai trouvé ma réponse. Certaines personnes pourront dire « Ah, il veut trop montrer qu'il prie, il veut trop ceci ». Pas du tout. De toute façon, c'est pas aux hommes que j'ai approuvé que je prie. Je prie pas pour que les hommes disent que je prie, loin de là. Mais c'est vraiment dans la prière où... Pourquoi l'Espagne, la D2 espagnole? Déjà parce que ça fait un moment que j'ai à cœur de venir. J'ai vraiment eu des réponses pour jouer en Espagne. Vraiment un désir personnel. Et quand je priais, vraiment, c'était ma demande, c'était de sortir de ma zone de confort. Parce que après, j'ai eu des propositions où je sais pas si financièrement j'aurais forcément été mieux ou pas, parce que voilà. Mais en tout cas, au niveau de l'équipe, mais du niveau du championnat et tout, ça aurait pu être plus relevé, ou voilà, j'aurais pu goûter à de la D1 et tout, etc. Mais c'était pas dans les critères que j'avais à cœur d'avoir, quoi. C'était pas dans mes critères. Et quand la fête est venue, au début, j'ai eu un petit bug. J'ai dit, bah, attends, il vient de monter. Voilà, tout ça. Et je continue à prier. Et je sais pas, à un moment donné, j'écoutais une prédication. Et c'était vraiment, ça parlait encore de la zone de confort. Sortir de cette zone de confort, aller vraiment dans l'inconnu, faire un pas de foi. Faire un pas où tu vas te retrouver seul. C'est ce que tu n'as jamais fait, tu auras ce que tu n'as jamais eu. Cette phrase, elle est vraie, c'est pas biblique, hein, mais c'est vrai pour tout. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais pourquoi je ne pourrais pas aller à Albacete? Et j'ai pesé le pour et le contre. Je me suis remis à prier. Et là, quand je priais, j'ai le désir. C'était vraiment la réponse. Quand je prenais tout, ce qui revenait le plus tout le temps, c'était l'Espagne, Albacete. Venir ici. Et donc, j'ai pas pris longtemps avant de prendre ma décision. Dès que j'ai eu l'appel, j'ai laissé quelques jours pour prier et tout, etc., pour prendre mon temps. Tac, ça s'est fait assez vite et je suis venu ici. Et alors d'aujourd'hui, franchement, je regrette, mais absolument pas du tout. Pas du tout, du tout.
Et comment se passe votre intégration, votre acclimatation? Est-ce que vous avez pu trouver une église locale en Espagne? Vous dites que vous maîtrisez déjà l'espagnol, vous aimez cette langue. Et comment vous voyez les choses? Comment ça se passe?
Bah, franchement, c'est là où je dis que Dieu est formidable. Hein, parce que avant que je signe, donc j'étais à peine en pourparlers. Et à ce moment-là, donc il n'y a rien de signé, j'ai pas dit que je vais arriver là-bas, que je vais jouer. Et à ce moment-là, je ne vais pas très souvent sur Facebook. Et là, je sais pas, je vais regarder mes messages et je vois un nom bizarre, un espagnol. Pff, je dis, mais c'est qui ça? Bon, je clique. Et là, c'est le premier message. Je clique dessus, je vois un message en français. Et comment c'était écrit, ça se voyait que ça a été traduit. Ça a été dans traduction et tout. Et là, un jeune qui m'envoie un message en me disant, ouais, salut Jérémy et tout, etc. J'ai appris que tu pourrais peut-être venir sur Albacete, etc. J'espère que tu viendras et tout. Et là, il m'envoie l'adresse de mon église locale. C'est la seule église évangélique d'Albacete. Il n'y a qu'une seule église, c'est la nôtre. Je t'envoie l'adresse si ça t'intéresse un jour. Il m'envoie les heures des réunions de jeunes, du culte, le dimanche et tout. Et là, je me suis dit, mais attends, waouh. J'ai dit, mais je n'ai même pas encore signé. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est au courant que je suis en pourparler avec Albacete. Et lui, il m'envoie ce message-là. Et là, j'ai commencé à sourire. J'ai dit, ah ouais, là, je pense que... Ma décision, elle a été prise. J'étais déjà prêt à y aller, mais là, ça a confirmé. Quand j'ai reçu ce message-là, ça a confirmé.
Merci beaucoup, Jérémy Bella, d'avoir répondu à mes questions sans filet, en toute transparence. Merci pour toutes les petites pépites que vous nous avez partagées. On vous souhaite une très bonne saison en Espagne, puisque vous puissiez continuer à enchaîner les buts et à prendre beaucoup de plaisir. Et puis, pour nos amis de l'église évangélique d'Albacete, qui vous souhaitent la bienvenue là-bas et que vous puissiez vous épanouir dans cette communauté. C'était le sport au cœur de la foi. Je vous dis à très bientôt sur les ondes de RCF Alpha.